Ces gens qui font la différence, avec Sophie Stanquet.
Mesdames, Messieurs, bienvenue à Ces gens qui font la différence. Aujourd'hui, notre invité Ronald Beauregard, il est cofondateur et directeur général de la Fondation des aveugles du Québec. Depuis 25 ans, l'infatigable Ronald Beauregard cumule des emplois de spécialiste en orientation et mobilité à l'Institut Nazareth et Louis Braille et de directeur général de la Fondation pour les aveugles du Québec, en plus d'être un grand sportif accompli. La Fondation pour les aveugles du Québec offre des services d'habitation, de loisirs, ainsi que la prévention et de sensibilisation. Son objectif est bien contrer la pauvreté et la solitude et améliorer la qualité de vie des personnes aveugles en leur permettant d'avoir une vie sociale épanouie et développer leur autonomie. On le reçoit tout de suite après. Monsieur Beauregard, bienvenue dans nos studios.
Ben,
c'est une première, je pense, hein, à Canalem.
Oui, c'est une première, oui.
Alors, on est très, 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 très heureux de vous accueillir ici aujourd'hui. On va passer 60 minutes ensemble. On va vous connaître davantage. On va aussi faire connaître la fondation que vous dirigez, tout ce que vous faites, d'ailleurs, la Fondation des aveugles du Québec. Et puis, vous êtes aussi orientateur au niveau de trouver de l'emploi et de dire ce qui se passe pour les jeunes. Alors, tout ça, on va faire le tour. Mais avant... je veux un petit peu connaître votre passé, d'où vous venez, parce que je sais que vous êtes une famille nombreuse de 9 enfants. Alors, vous êtes né où exactement et vous avez vécu votre enfance où?
Moi, je suis originaire de Montréal. J'ai vécu mon enfance à Montréal. Oui, comme vous l'avez dit, je suis originaire d'une famille de 9 enfants. Je suis l'avant-dernier. On était 3 garçons, 6 filles. J'ai eu la chance de grandir, de vieillir sur le plateau Mont-Royal. À l'époque, c'était un quartier qui était quand même travailleur, qui était un quartier populaire où j'avais de nombreux amis.
Alors, est-ce que ça bougeait beaucoup dans ce quartier-là? Est-ce que vous étiez tranquille? Comment ça fonctionnait, cette famille de 9 enfants? On aidait beaucoup à la maison? Comment c'était?
Oui, ça bougeait beaucoup, autant dans le quartier qu'à la maison. Écoutez, je viens d'une famille d'ouvriers. Mon père était commis d'épicerie. Ma mère, elle avait trop de travail à la maison pour aller travailler à l'extérieur. Donc,
oui.
Ça bougeait beaucoup à la maison. Ça prenait beaucoup d'organisation. Les moyens étaient beaucoup moins facilitants que ça peut l'être aujourd'hui. Je me souviens de la vieille machine à laver, les cordes à linge, préparer les repas, tout ça. Ça bougeait beaucoup, mais heureusement, on pouvait, les plus jeunes, aller à l'extérieur s'amuser parce que, comme je disais, c'était un quartier qui bougeait beaucoup, beaucoup. Il y avait beaucoup de parcs, j'avais beaucoup d'amis. Donc, au moins, pendant que je n'étais pas à la maison, je faisais pas... j'obligeais pas mes parents à s'occuper de moi.
Alors, est arrivée aussi la maladie, une maladie globulaire qui a fait en sorte que votre vue elle est périphérique, vous ne voyez pas donc les formes. À quel âge est arrivée dans votre vie?
C'est ça. Moi, je suis atteint par la maladie de Leber, c'est une atrophie du nerf optique. c'est une atteinte de la vision centrale, mais j'ai une très, très bonne vision périphérique, comme vous disiez. Mm-hmm. La vision centrale, on s'en sert pour reconnaître le détail. Quand on parle de détail au niveau de la vision, c'est l'écriture, c'est reconnaître les gens, c'est la couleur. Toute action qui va amener un mouvement rapide. Moi, je n'ai pas accès à ça. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est jouer au baseball. Je peux voir l'ensemble du jeu à une certaine distance, mais je ne suis pas en mesure de voir la balle, tout simplement, parce que ça se déplace trop rapidement. Donc, c'est une atteinte de la vision centrale. Je vous parlais qu'au niveau de l'écriture, de la lecture, ça avait un impact. Le meilleur impact que je peux donner, c'est qu'un lecteur moyen va lire environ 320 mots minute. Moi, j'en lis 80.
Donc, un ralentissement forcément parce que ça demande plus d'efforts.
Exactement, plus d'efforts. Puis étant donné que je n'ai pas la vision centrale, je suis obligé de me servir de la vision excentrique. Qui est beaucoup moins précise que la vision centrale peut l'être.
Alors, ça, est-ce que c'est arrivé soudainement dans votre vie?
Oui, c'est arrivé à l'âge de... Je n'avais pas tout à fait 16 ans. En l'espace de 3 mois, je suis parti d'une vision normale qui est de 6 sur 6 à 6 sur 400. Ce que ça veut dire, c'est que quand on passe un examen de la vue chez l'optométriste, dans un laboratoire, c'est toujours exprimé à 6 sur 6. C'est que la cible qu'on regarde est à 6 mètres de nous, ou 20 pieds pour les plus vieux. Donc, 6 sur 6 ou 20 sur 20. Une personne qui a une vision normale, donc ça va être 6 sur 6. Une personne qui a un problème visuel, bien, ça peut être 6 sur 20, ça peut être 6 sur 100, 6 sur 400. Donc, plus que le chiffre est important, plus que l'atteinte est sévère. Puis moi, dans mon cas, quand c'est arrivé, j'étais considéré comme fonctionnellement aveugle, c'est-à-dire que j'ai été obligé d'apprendre le braille pour communiquer. Ça aurait été préférable que j'utilise la canne blanche, sauf que quand ça arrive à 16 ans, tu ne veux pas être trop différent des autres.
C'est ça.
Ce qui fait que quand je sortais, c'était toujours dangereux.
Alors, justement, on va en parler de 16 ans parce que vous le dites ouvertement encore aujourd'hui, quand on va sur le site de la Fondation, vous écrivez une lettre très personnelle qui m'a beaucoup touchée, où vous racontez, vous parlez carrément aux gens, vous dites, voilà, moi, à l'âge de 16 ans, il m'est arrivé, j'ai perdu la vue et ça a été extrêmement difficile à l'école, ça a été même, vous employez le mot, l'enfer. Donc, ça change pour vous, l'école. On associe aussi école à solitude. Dans votre cas, on le sent bien dans vos écrits. Est-ce que c'était aussi difficile que ça?
J'ai eu la chance, lorsque j'ai perdu la vision, d'aller à l'Institut Louis Braille, qui était une école spécialisée à l'époque, qui recevait les garçons handicapés visuels. Il y avait l'Institut Nazareth qui était situé à Montréal, qui recevait les filles. Oui, ça a été difficile parce que ça a été de perdre la vue à l'âge de 16 ans, de réapprendre à lire, à écrire, de réapprendre à vivre avec ma nouvelle condition visuelle. Oui, ça a été très, très difficile, mais ça a été d'autant plus difficile quand j'ai eu terminé mes 2 années à l'Institut, là où j'ai terminé mon secondaire, que je suis rentré au cégep. Là, j'ai vu les différences, j'ai vu de grosses différences.
Au cégep, vous dites que vous étiez tout seul, même si on n'a plus l'âge de jouer dans la cour avec des cordes à danser, quand même, quand on se retrouve tout seul dans la cour au cégep, c'est pas évident.
Non, c'est pas évident, parce que notre société est basée sur le visuel. 83 % des informations qu'on reçoit de l'environnement sont visuelles. Donc, à partir du moment où tu as une atteinte visuelle, que tu n'as pas une vision parfaite, que tu ne veux pas trop montrer non plus, moi, j'avais 18 ans ou quelque chose du genre, je ne voulais pas être différent des autres. Donc, j'essayais de faire à peu près comme tous les autres, mais je n'étais pas capable de les suivre au niveau sportif, au niveau culturel, récréatif. Donc, oui, ça a été difficile. Ça a été
et exempt aussi de... Parce que vous êtes je l'ai dit en introduction, vous êtes un grand sportif. Exempt aussi de faire des sports, ça vous frustrait? On automatiquement, on disait, bon, il ne va pas faire de sport, c'est ce qui se passait?
Bien, c'est là où j'ai découvert qu'il y avait moyen d'arranger ça un petit peu. Il y a des sports qui ne sont pas praticables. Tout ce qui est ballon, balle, tout ce qui est sport de raquette, ça ne m'est pas accessible. Je ne pouvais pas. Sauf que je me suis rendu compte que judo, je pouvais. Yoga, je pouvais. Conditionnement physique, je pouvais. Je me donnais des trucs. Je m'organisais toujours pour être à côté du prof. Donc, je regardais ce qu'il faisait. Ou je m'organisais pour me faire 2-3 chums dans le groupe. Donc, à ce moment-là, je faisais exactement ce qu'eux faisaient. Mais à partir du moment où il y avait un sport de compétition, évidemment que je ne pouvais pas suivre. Mais ça m'a aidé à développer des habitudes, des habiletés que j'ai continué par la suite.
On va revenir dans l'enfance. comment c'était sur le banc d'école? Est-ce que vous aviez des gens qui vous aidaient? Est-ce qu'il y avait une aide gouvernementale pour avoir quelqu'un, avant que vous commenciez à apprendre le braille, pour vous aider à apprendre différemment?
Bien, comme je vous ai dit, quand ça m'est arrivé, je suis allé compléter mon secondaire à l'Institut Louis Braille. Ça, j'avais toute l'aide qu'il fallait. C'est arrivé au cégep. Ça, ça a été autre chose. Ça a été vraiment difficile parce que non, il faut se rappeler que c'est il y a 40 ans passé, là. Donc, il y a 40 ans passés, oui, il y avait une grande préoccupation pour les personnes handicapées, mais jamais comme aujourd'hui. Les différents services, les différents moyens qu'on a mis en place n'existaient pas. La Ménothèque, à titre d'exemple, c'était tout nouveau. Ça venait juste d'arriver. Vous n'aviez pas les services que vous offrez maintenant. Vous n'aviez pas la collection de livres que vous avez maintenant. Puis, on commençait à développer une certaine expertise. À l'époque, sans dire que les personnes handicapées visuelles n'avaient pas accès à la scolarisation, il y avait accès, mais beaucoup plus difficilement qu'aujourd'hui. Beaucoup plus.
Donc, au cégep, ça a été difficile.
Ou ça a été très difficile, oui. Très difficile.
Comment vous faisiez? Vous enregistriez?
Je prenais beaucoup de notes, puis j'ai la faculté, j'ai une très bonne mémoire. Ce qui fait que j'écoutais le prof, puis je synthétisais. Parce que je suis quand même capable d'écrire encore l'imprimé, puis de lire l'imprimé. Parce que, comme je vous ai dit, on n'avait pas les moyens d'aujourd'hui. Les laptops, ça n'existait pas. Les tablettes, les téléphones intelligents, il n'y a rien de ça qui existait. Pour vous dire, oui, on avait accès. À l'époque, le gouvernement, ce qu'il nous donnait, c'était un magnétophone à bobine, une machine à écrire. Il y a bien des jeunes qui ne savent pas c'est quoi. Machine à écrire, puis un dactylographe en braille. C'est ce que le gouvernement nous donnait pour s'organiser. Donc, quand on était en classe, il fallait prendre un moyen pour prendre nos notes, soit le magnétophone à bobine, ou encore, ceux qui avaient un peu plus de vision, ben, pouvaient écrire à la main, ce qui était mon cas. Mais j'écoutais beaucoup, beaucoup le prof, je synthétisais, puis là, ben, je prenais des notes. C'est comme ça que je faisais. Au retour chez moi, ben, là, mes notes, je les transcrivais au prof sur la machine à écrire conventionnelle. À ce moment-là, j'avais plus nécessairement besoin du braille, parce que ce que je dois dire aussi, c'est que la maladie que j'ai, la maladie de Leber, il y a un chanceux à l'occasion qui récupère en partie ou en totalité.
Ah oui.
Moi, à l'espace de deux ans, j'ai récupéré pour avoir une acuité d'environ 6,40. Okay? Donc, le même exemple que tout à l'heure, ce que vous allez voir à 40 mètres, moi, je le vois à 6. Mais cette vision-là est suffisante pour me permettre d'écrire et de lire.
Mm-hmm.
Donc, j'étais en mesure, rendu au cégep à l'université, de pouvoir prendre mes notes, mais en me donnant des petits trucs.
Oui, puis votre mémoire aussi.
Surtout ma mémoire.
Qui était très forte. Ouais. On fait une pause musicale et on revient tout de suite après.
Merci.
choix musicaux aujourd'hui de Christiane Campagna, ma recherchiste, Maz Prototype. Vous venez d'entendre cette pièce musicale et aujourd'hui mon invité, Ronald Beauregard, cofondateur et directeur général de la Fondation des aveugles du Québec. Alors, on était finalement à l'enfance, le cégep, vous aviez trouvé des trucs pour vous aider à apprendre, mais plusieurs pourraient abandonner et vous n'avez pas abandonné, vous avez continué. Vous êtes allé même faire vos études en droit. C'est quelque chose, ça. Comment c'était, ces études-là?
Ben oui, j'ai fait mon collégial au Cégep du Vieux. Par la suite, j'ai commencé mes études en droit à Sherbrooke. Tout à l'heure, je vous expliquais que ma principale atteinte visuelle, c'est au niveau de la lecture. J'ai beaucoup, beaucoup de difficultés à lire. Je vais vous donner l'exemple.
Ça prenait plus de temps, là.
Beaucoup plus de temps. Puis en droit, ça demande beaucoup, beaucoup de lecture. Donc, j'ai été obligé d'abandonner mes études en droit pour m'en aller par la suite en sociologie.
Et en études spécialisées, en éducation spécialisée,
ouais,
aussi.
Par la suite. Un peu plus tard, à l'âge de 33 ans, j'ai eu la chance de profiter du premier groupe qui a été formé en orientation mobilité au Québec, parce qu'auparavant, la formation se donnait aux États-Unis jusqu'en 89, où l'Université de Sherbrooke et l'Institut Nazareth Louis-Braille ont mis sur pied un programme commun dans le but de développer des spécialistes en orientation mobilité. C'est là où j'ai suivi le cours. C'est de là où j'ai commencé à pratiquer en orientation mobilité à l'Institut Nazareth Louis-Braille.
Et comment c'était justement à l'université? Est-ce qu'il y avait de l'amélioration à cette période-là, c'est-à-dire au niveau des outils qu'on vous donnait?
Oui, là, en 89, déjà là, la technologie était beaucoup plus avancée que maintenant, qu'à l'époque, je veux dire, qu'au secondaire ou au collégial, c'était beaucoup plus avancé. Donc, j'étais en mesure d'utiliser la technologie d'aujourd'hui, les systèmes informatiques, puis les services qui étaient offerts aussi. On pouvait profiter, utiliser des preneurs de notes. On pouvait également avoir des services de lecteurs. Donc, on a vu une grosse différence entre le milieu des années 70 et la fin des années 80, au moment où je suis allé étudier. Les services étaient beaucoup plus adéquats, répondaient beaucoup plus à nos demandes.
Au niveau de la solitude, parce que vous vous sentiez pas mal isolé au cégep, parce qu'à l'université, ça allait mieux dans ce sens-là?
Oui, ça allait beaucoup mieux parce que j'étais rendu adulte. Puis je m'étais fait mon cercle d'amis à l'Institut Louis-Braille. Je me suis fait des chums là-bas qui sont encore des grands amis. Puis le travail m'a amené à rencontrer d'autres personnes. Donc ça, non, à ce niveau-là, ça s'était réglé. J'avais plus nécessairement de problème.
Et vous faites votre choix de carrière comment par la suite? Qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'il y a des hésitations à me dire, bon, ben je continue, je veux aider les gens qui sont comme moi. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête?
Bon, c'est sûr que moi, quand ça m'est arrivé à l'âge de 16 ans, que j'ai perdu la vue, mais comme je vous expliquais, j'ai eu la chance de récupérer en partie. J'ai quand même pris conscience de la grande chance que j'avais. J'avais rencontré jusqu'à ce moment-là des personnes qui étaient dans le besoin. Donc, je m'étais dit, la vie a voulu me donner cette chance-là, donc je vais utiliser ma vie à aider les autres. C'est à partir de ce moment-là où j'ai été tout d'abord directeur général du RAM, Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, pendant 5 ans, ce qui m'a amené jusqu'à être intervenant en orientation mobilité à l'Institut Nazareth Louis-Braille. Donc, je cumulais à la fois mon poste de DG au RAM et j'étudiais temps plein. Sans oublier que j'avais aussi à ce moment-là la fondation qu'on venait de cofonder des amis et moi.
C'est ça. Alors la fondation, il faut le dire aujourd'hui, vous êtes directeur général de la Fondation des aveugles du Québec et ça part avec plusieurs personnes. C'est en 94, est-ce que c'est le...
On s'est incorporé en 91, mais on avait déjà commencé des services, à offrir des services, je vous dirais, 2-3 ans plus tôt. Donc, en 91, on s'est incorporé. C'était des amis, tout simplement. Par contre, j'avais un mentor là-dedans qui était M. Armand Houle, il est décédé depuis. Il y avait M. Armand Lafontaine, il y avait Jean Perron, puis il y avait également Albert Langlois. Donc, on était 5 amis de différents groupes d'âge, mais on aimait ça se rencontrer, discuter, puis surtout regarder la situation de la communauté handicapée visuelle. C'est de là où on s'est dit, ça serait le fun qu'on essaie de donner un coup de main à améliorer la qualité de vie des personnes handicapées visuelles.
Pour briser notamment la pauvreté, l'isolement et solitude. Ça, c'est bien inscrit dans votre charte, si on veut. Et aussi donner des possibilités de faire du sport, parce que, je l'ai dit en début d'émission, vous êtes un grand sportif, vous n'arrêtez pas. Autant plus jeune que quand vous fondez votre institution et vous êtes directeur général, vous continuez. Puis il y a quelque chose qui vous chicote là-dedans en se disant, c'est pas juste qu'on ne puisse pas faire de sport. Et là, c'est votre mission, là.
Ouais. Oui, le sport a toujours pris beaucoup de place dans ma vie. J'en fais encore moins, là, puis surtout pas du sport compétitif, ça me tente plus d'en faire, mais pour moi, c'est important. Okay? Un esprit sain dans un corps sain, j'y crois, là. Puis je pense que si j'ai réussi à faire tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est justement parce qu'en quelque part, je prenais du temps pour moi, puis j'allais faire le vide. Donc ça a toujours pris beaucoup, beaucoup de place dans ma vie. Puis mon implication dans la communauté handicapée visuelle jusqu'à temps que je sois jeune adulte m'a permis de constater certains besoins qui n'étaient pas comblés par les services publics qu'on était en train de mettre en place. Mm. C'est extraordinaire ce qu'on offre au Québec, là. Comme service, on pourrait en reparler, mais il y avait quand même des vides. Les vides, c'était au niveau du loisir et du sport pour les jeunes.
Oui.
Parce que moi, j'ai connu les écoles spécialisées à l'époque, où on se faisait des chums, où également, on pouvait pratiquer des activités sportives et récréatives qui étaient adaptées pour nous. À titre d'exemple, on jouait au hockey. On a remplacé la rondelle de caoutchouc par une boîte de conserve. Donc, peinturée en noir, vide, évidemment. Donc, ça ralentit
le jeu. Ça fait du bruit aussi.
Ça fait du bruit, exactement. Mm. Donc, ces différentes adaptations qu'on a apporté à des disciplines sportives dans le but de nous permettre de les pratiquer. Moi, j'ai connu ça. Par la suite, j'ai continué à les pratiquer. Il y a une équipe de hockey, une équipe sonore, les Hiboux de Montréal. Ça joue oui. 2-3 fois par semaine.
À Longueuil, je pense qu'ils sont à Longueuil? Ou,
il y en a à Longueuil, puis il y en a à l'aréna Francis Bouillon dans le quartier
de Schlagermaison. Ils sont très actifs, effectivement.
Très, très actifs.
Ouais.
Donc, ces différentes adaptations qu'on a apportées. Comme je disais, j'ai eu la chance de fréquenter une école spécialisée, mais les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes handicapés visuels, sont intégrés dans leur école de quartier. Souvent, ils vont vivre un problème d'isolement, de solitude, tout simplement parce que quand vient le temps de pratiquer des activités sportives, récréatives ou culturelles, à cause de leur situation, leurs conditions visuelles, ils n'ont pas nécessairement accès à ces mm-hmm. activités-là. C'est de là où on s'est dit que ce serait le fun de leur faire vivre ce que nous, on a vécu en organisant des activités récréatives, des activités de loisirs. On ne veut pas utiliser nécessairement le sport parce qu'on ne veut pas qu'ils fassent nécessairement du sport. S'ils veulent faire du sport, il y a l'Association sportive des Aveugles de Montréal, il y a les hiboux qui peuvent leur permettre d'en faire. Nous, ce qu'on veut faire, c'est de leur démontrer que même en bas âge, avec une cécité totale ou partielle, sont en mesure mm-hmm. d'avoir du fun, sont en mesure de se regrouper, de voir qu'ils ne sont pas les seuls à vivre cette situation-là, puis de découvrir des choses. Alors, on essaye à chaque 2-3 ans d'organiser des gros projets qui s'autofinancent. C'est d'exemple, l'été dernier, on a initié 8 jeunes sur un gros voilier qui est parti de Québec jusqu'à Rimouski, mm-hmm. participaient aux manœuvres, différentes choses comme ça. Donc, ça peut ouvrir et m'amener des horizons. On organise des soupers thématiques. Les jeunes participent à l'élaboration du menu, la carte d'invitation. Le soir même, ce sont eux qui accueillent, ce sont eux qui préparent la bouffe. Bien, on a influencé 2-3 jeunes qui sont allés, des bons demi-voyants évidemment, qui sont allés travailler en cuisine. Donc, ce qu'on veut faire, c'est d'essayer de leur faire découvrir des choses,
oui.
leur faire prendre surtout conscience que malgré leurs conditions visuelles, ils sont en mesure de faire plein d'affaires.
Mais oui, puis parce qu'ils étaient, là, la façon dont vous parlez, c'est que, puis aussi votre enfant, c'est qu'ils étaient sur les bancs. Dès qu'arrivait le sport, mais là, on disait, bon, OK, toi, t'auras pas de sport.
C'est exactement ça.
C'est épouvantable. Donc, finalement, là, on leur donne la possibilité d'être, de jouer, de faire du sport, de faire toutes les choses, de s'amuser, de découvrir également, comme tout le monde.
Puis, il y a des écoles qui sont tellement ouvertes qu'ils vont accepter des jeunes handicapés visuels dans des disciplines sportives auxquelles on ne croyait pas. J'ai une de mes jeunes que je côtoie régulièrement, soit en orientation mobilité ou encore à la fondation, qui a un certain résidu visuel qui est en mesure de faire de l'escrime. C'est sûr, c'est pas la meilleure, mais c'est pas important. L'important, c'est qu'elle bouge, qu'elle voit qu'elle peut avoir du fun, puis que ça peut être accessible. Elle ne sera jamais championne, mais ça, ce n'est pas important.
Alors, on fait une autre pause musicale et Herzl et Frida qu'on écoute.
Qui font la différence. Voici Sophie Stanquet.
Nous sommes en direct, mesdames, messieurs, avec Ronald Beauregard, cofondateur et directeur général de la Fondation des aveugles du Québec. Mais quand même, Ronald, il y a deux chapeaux. Il n'y a pas juste... on va parler évidemment de la Fondation, mais aussi vous orientez des jeunes. Alors, vous avez deux travails à temps plein, et ça, depuis 25 ans, à l'Institut Louis Braille, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui.
Ah, c'est quelque chose, hein?
J'ai la chance d'avoir une bonne santé, puis j'ai la chance d'avoir eu toujours beaucoup d'énergie. Comme tout le monde, je vais avoir des périodes plus difficiles. Mais de façon générale, quand je regarde ma vie... J'ai toujours été comme ça, beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, j'ai été en mesure de faire mes deux emplois, oui, pendant tout près de 26 ans maintenant. Mais même auparavant, je suis quelqu'un qui a toujours fait deux puis trois choses en même temps. Mmh. Travailler, étudier, faire beaucoup, beaucoup de sport. Mmh. Donc, j'ai eu cette chance-là. Puis oui, j'ai commencé à travailler à l'Institut Nazareth-Loubert en 89, comme spécialiste en orientation mobilité, mais en même temps, j'avais la Fondation des aveugles du Québec qu'on venait tout juste de démarrer.
C'est ça, avec vos amis. Est-ce qu'ils sont toujours là auprès de vous, ceux qui ont parti, qui ont fait la genèse de votre compagnie?
Malheureusement, il y en a deux qui sont décédés, les deux Armands. Puis sur le plan professionnel, il y en a deux, Albert et Jean, qui ont pris des orientations différentes. Donc, pour l'instant, je suis seul.
Mais vous êtes le pilier.
Je suis bien équipé, par contre. J'ai une très bonne équipe autour de moi, puis j'ai plein de bons noms.
Alors, une bonne équipe, il le faut parce qu'au Québec, on compte environ 100 000 personnes atteintes de cécité totale ou partielle, déficience visuelle légère et sévère, donc toute une clientèle. Que fait la Fondation des aveugles du Québec? Si jamais on veut savoir exactement ce que vous offrez, on doit s'attendre à quoi?
Bon, bien évidemment, on tente de sensibiliser le grand public à la déficience visuelle, aux capacités que la personne a encore. Je ne parle pas uniquement de capacité visuelle, mais de capacité à faire des choses. Souvent, le public va penser que lorsqu'on a une déficience quelconque, dans notre cas qui est visuelle, les gens sont incapables de faire... plein de choses, alors que c'est pas le cas. On en a parlé un petit peu plus tôt. C'est juste une question d'adaptation, souvent. OK? Puis ça, on a des services de réadaptation, on a des centres de réadaptation au Québec qui le font très bien. Donc, on tente de sensibiliser le grand public à la capacité que les gens ont encore à pouvoir s'intégrer socialement. Donc, on organise des sessions d'information, on produit du matériel d'information toujours destiné à sensibilisation. Évidemment qu'on tente aussi de sensibiliser le monde à la prévention, comment c'est important de faire attention lorsqu'on pratique des activités sportives, lorsqu'on on travaille, donc de mettre des lunettes pour protéger nos yeux. Donc, on tente aussi de prévenir le grand public qui ont la chance d'avoir la vue encore, de faire attention. Les services plus directs qu'on offre à notre clientèle, on en a déjà parlé un peu au niveau de l'accompagnement de nos jeunes dans les activités de loisirs,
sport,
activités récréatives.
Oui.
Mais également, on s'est donné comme mission de tenter de combattre la pauvreté dans notre communauté. Je vous dirais que pour une certaine clientèle, handicapée visuelle toujours, il y a beaucoup de pauvreté.
Oui.
Donc, nous, on s'est dit, un des moyens qu'on pourrait se donner pour combattre la pauvreté, c'est de loger les gens décemment et à bas prix dans de beaux appartements.
C'est ça. Au niveau de l'habitation, vous avez quelque chose d'extraordinaire. Vous avez un immeuble qui est complètement adapté, qui dessert plusieurs personnes. Racontez comment c'est venu, parce que je pense que ça va grandir, ça, cette histoire d'immeuble. Vous allez en faire d'autres. C'est parti d'où, cette idée-là?
Bien, encore une fois, c'était des observations. En tout cas, comme on l'avait fait pour les loisirs, on regardait un petit peu les besoins des personnes handicapées visuelles. On a constaté que souvent, ils pouvaient consacrer jusqu'à 60-65 % de leurs revenus. Il ne faut pas oublier que c'est des gens qui sont à faible revenu, soit la sécurité du revenu ou encore les rentes d'invalidité ou quoi que ce soit. Donc, des gens qui pouvaient consacrer jusqu'à 60-65 % de leurs revenus à se loger. Souvent dans des appartements peu salubres ou encore des appartements où ils pouvaient vivre 6-7 individus dans un 4 ou 5 pièces. Donc, après avoir observé ça, on s'est dit, on va essayer de se constituer un réseau d'appartements adaptés aux personnes handicapées visuelles, mais qui va aussi répondre à leurs besoins financiers. C'est là où on a réalisé un premier projet qui était situé à Tétroville. C'est 17 appartements adaptés dans le cadre de HLM. Donc, les familles qui vivent là payent comme loyer 25 % de leurs revenus.
Bon.
Ça peut faire une grosse différence. Ben
oui, parce que si on parlait de revenus tout à l'heure, j'ai juste donné des statistiques. Canada estime que la forte majorité des personnes handicapées vit sous le seuil de la pauvreté et dispose d'un revenu annuel inférieur à 10 000 $.
Exact.
Alors, c'est quelque chose. Donc là, vous leur permettez de vivre décemment, d'avoir un toit, en plus un toit adapté. Et à Tétroville, ça a été les premiers.
Le premier en 94, qu'on a inauguré en 94, on a eu un second projet dans Rosemont, 28 appartements, toujours adaptés, toujours dans le cadre de HLM ou supplément loyer, c'est la même chose. Là, on vient tout juste de construire un troisième projet dans Hochelaga-Maisonneuve, où on retrouve 31 appartements. Ça, c'est notre plus gros. Il est vraiment beau. je vous invite à venir le voir. C'est extraordinairement beau. Puis c'est une belle fierté. Les autres le sont aussi, mais celle-là, il est...
Alors ça, c'est le dernier bébé.
Le dernier, 31.
C'est quoi la demande? Parce que je parlais du nombre assez élevé, là, 110 000 personnes. C'est quoi la demande de gens? Est-ce que vous en avez beaucoup? Est-ce que les gens vous appellent? Est-ce qu'il y a une liste d'attente? C'est comment?
Bon, il y a une liste de demandeurs, oui. La demande est très grande. Nous, on a arrêté de le publiciser parce qu'on créait trop d'attentes, trop d'insatisfaction auprès de notre clientèle. À un moment donné, on fait se ramasser avec 300-400 noms sur nos listes, ce qui représentait peut-être 30, 40, 50 ans d'attente, théoriquement, on se comprend bien. Donc, on a arrêté de le publiciser. Mais je suis convaincu que si on annonçait à la communauté handicapée visuelle qu'on est sur le point de réaliser un nouveau projet, qu'on faisait la publicité dans la communauté, qu'on pourrait facilement revoir une liste de demandeurs de 200, 300, 400 noms. J'en suis convaincu.
Alors, donc, vous êtes responsable. Quelqu'un qui veut, qui nous écoute aujourd'hui, qui se dit, moi, j'ai envie d'avoir un appartement comme ça, j'ai besoin, parce que, et s'appauvrissent, et vous l'avez dit, hein, c'est énorme, là, si on n'est pas capable de payer son loyer puis qu'on s'empêche de manger parce qu'on paye un loyer trop élevé, il faut se donner des outils, il faut se donner un toit, une vie agréable. Ils sont à l'écoute en ce moment. Qu'est-ce que vous leur dites de faire? Est-ce que pour être éligible?
Bien, écoutez, faut être à faible revenu et handicapé visuel. C'est simple. On a juste à appeler à la Fondation des aveugles du Québec, demander à parler à Mylène au poste 26, puis on va vous inscrire sur la liste de demandeurs. On va également vous dire les différents documents que vous devez nous envoyer pour être inscrit sur la liste de demandeurs. Puis à chaque fois qu'il y a un appartement qui se libère, bien, à ce moment-là, on y va selon l'ancienneté sur la liste de demandeurs, mais également à certains critères. Évidemment, si c'est un deux chambres à coucher qui se libère, ben ça s'adresse à soit une famille ou deux individus qui partagent pas la même chambre. Donc,
Alors, on fait une pause avec Stéphane Grappelli. Nous sommes en direct avec Ronald Beauregard, cofondateur et directeur général de la Fondation des aveugles du Québec. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de prévention, de sensibilisation, et c'est un point important dans votre fondation. On va revenir un petit peu là-dessus. Au niveau de la prévention, qu'est-ce que vous faites à la Fondation? Parce que vous avez dit, bon, c'est important de protéger nos yeux. Est-ce qu'on le fait assez? Qu'est-ce que vous avez à nous apprendre là-dessus?
Non, malheureusement, les études nous démontrent qu'au niveau du travail puis au niveau de la pratique d'activité sportive, il y a encore beaucoup d'accidents. On va prendre l'exemple du racquetball. Ben, il y a encore des gens qui ne portent pas de lunettes pour protéger les yeux, ou encore au hockey, pas le hockey mineur, mais le hockey de garage. Il y a des gens qui, des fois, vont porter une demi-visière ou n'en porteront pas. Donc, ça peut provoquer des atteintes visuelles. On a juste à penser à différentes activités sportives qui peuvent amener justement un problème de vision. C'est la même chose au travail. Puis quand je parle au travail, c'est pas nécessairement la job rémunérée, là. Ça peut être à la maison. vous faites du bâti ou vous êtes en train de briser de la céramique, de la pierre, bien, c'est important de mettre des lunettes pour protéger vos yeux parce que ça prend juste une petite particule qui se dégage des autres pour atteindre vos yeux, puis ça peut amener la cécité. Donc, il faut faire attention.
Le message passe? ou est-ce que quand, par exemple, vous le dites à des gens qui sont autour de vous, est-ce que vous sentez qu'ils passent le message de dire, ben là, il faudrait que tu te protèges les yeux, ou ça passe pas encore?
Moi, je crois que ça passe pas assez encore. Je crois que ça passe pas assez. Puis on peut amener un autre exemple aussi, les UV, les ultraviolets. C'est important de porter des filtres solaires parce que les études le démontrent aussi, là, que ça a un effet, que ça peut amener des maladies visuelles justement à cause des ultraviolets. Mais je pense que ça passe pas suffisamment bien encore.
Mm-hmm. Alors, autre volet, vous offrez, la Fondation s'associe à un projet qui souhaite valoriser les veille à la lecture tactile pour les enfants de 0 à 5 ans. Tactilivre, ça se passe comment?
Écoutez, ça s'adresse justement à la jeune clientèle, 0 à 5 ans. Ce qu'on veut, c'est justement éveiller leur curiosité à toucher pour qu'éventuellement soient en mesure de discriminer de plus en plus de choses pour les amener vers le braille, la lecture du braille. Mm-hmm. Donc ça se fait en bas âge. On s'est rendu compte que si ça ne se faisait pas en bas âge, bien, à un moment donné, il manquait quelque chose un peu dans le développement pour le lecteur de braille. Okay? Il lisait soit moins bien, moins rapidement, ou il y avait plus de difficultés à discriminer.
Alors, au niveau du sport, comme vous êtes un grand sportif, vous l'avez dit, puis vous courez encore, pas mal de kilomètres par jour, là. Le ski... Ça, j'ai lu quelques notes, puis je trouvais ça m'a vraiment touchée, c'est que vous vouliez faire du ski à alpin, puis du ski, puis en plus que vous vouliez le faire partager à des jeunes, et vous êtes organisé à ce que, non, c'est pas vrai, on va faire du ski, puis ça va rester pour toujours. Alors, racontez-moi votre histoire du ski alpin, puis ensuite, on ira au jeu adapté.
Bien, écoutez, encore une fois, avec des amis, un moment donné, moi, je leur parlais de mon désir de faire du ski. Il y a d'autres handicapés visuels qui en faisaient aussi. Mon désir de faire du ski, sans nécessairement parler de volet compétitif, mais m'amuser parce que c'est un très beau sport. Je ne sais pas si vous en faites,
oui.
Mais j'adore faire du ski. T'es à l'extérieur toute la journée. Puis, avec ces amis-là, on a mis au point des techniques qui ont été améliorées de beaucoup, beaucoup depuis ce temps-là. Toujours dans le but de permettre à notre jeune clientèle de pouvoir profiter des joies du plein air, du ski, d'une journée complète à l'extérieur. Quand tu rentres d'une journée de ski là, qui fait moins 10, moins 15, puis que tu rentres à la chaleur, c'est tellement une sensation qui est extraordinaire, puis une bonne sensation de fatigue aussi. Donc, on a réussi à mettre au point toutes ces techniques-là, on a réussi à développer des contacts, on a surtout réussi à développer à recruter des guides bénévoles ou des guides rémunérés aussi, on a les deux, qui permettent à ces jeunes-là, tout au long de l'hiver, de faire une sortie de ski tous les samedis. On amène facilement une quinzaine de jeunes faire du ski à tous les samedis. Mmh. Ça se conclut tout le temps par un long week-end ou deux longs week-ends à Sainte-Anne. Puis, il y a 3 ans déjà de ça, on a été en mesure, encore une fois, un programme qui s'est autofinancé dans le cadre du programme 360 degrés, on a été en mesure d'amener une dizaine de jeunes faire du ski dans les Rocheuses.
Wow!
Oui, ça a été...
C'est extraordinaire,
ouais, ça.
C'est
extraordinaire.
Alors, vous faites aussi partie, vous parrainez le comité des Jeux adaptés. Qu'est-ce que c'est au juste?
OK. Les Jeux adaptés, c'est un regroupement de personnes à la retraite, des bénévoles, tous des bénévoles, qui adaptent des jeux de société... pour les personnes handicapées visuelles, les rendre accessibles. Mmh. Le jeu de Monopoly, le jeu de Clou. Pensez à différents jeux.
Scrabble.
Bon, ben eux, ils apportent toutes les adaptations nécessaires dans le but de permettre à la personne handicapée visuelle, cécité totale ou atteinte partielle, de pouvoir jouer avec ces jeux-là. Puis ça fonctionne très, très bien.
Les gens sont contents. On écoute l'émission, puis on a envie de vous aider parce qu'il y a des grands besoins. Puis pour ce que vous faites énormément de choses. Alors, comment on peut devenir bénévole ou même stagiaire chez vous? Comment ça fonctionne?
C'est simple, soit par téléphone, je peux te donner le numéro, 514-259-9470, 259-9410, passez par le poste 26, par la Mylène, elle va tout prendre ça en note, puis on va vous faire un suivi, ou encore vous allez sur le site web www.aveugle.org, vous allez trouver là-dessus aussi toutes les informations pour devenir membre, guide bénévole ou... toute autre tâche qu'on pourrait vous faire faire à la Fondation. Puis évidemment, on a notre page Facebook aussi.
Et puis on peut aussi être commanditaire ou financer une activité. Est-ce qu'on peut organiser une activité de financement pour vous?
Ah bien sûr. oui, ça c'est le nerf de la guerre, le financement. Donc toute personne qui a de bonnes idées ou qui voudrait nous aider à réaliser des activités de financement, évidemment, vous êtes les bienvenus.
On peut courir aussi?
On peut courir, oui.
Une petite course à ce niveau-là?
Bien là, hier, on avait une dizaine de participants qui ont fait le Spartan Race à Tremblant. On en a d'autres qui y vont dimanche prochain aussi. Ça fait que si vous voulez vous joindre à nous, vous êtes les bienvenus.
On va parler en terminant aussi de l'orientation. Je voudrais revenir parce que vous accompagnez les jeunes. Qu'est-ce que vous leur dites et qu'est-ce que vous avez fait? Parce que vous le faites depuis 25 ans. Des personnes et des jeunes qui ont une cécité, handicapés visuels, qu'est-ce que vous leur apprenez? Est-ce qu'il y a la confiance qu'ils vous donnent en premier? Qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes-là?
Bien, c'est ça. Spécialiste en orientation mobilité, c'est d'aider les jeunes à développer leur pleine autonomie en tenant compte, évidemment, de leur atteinte visuelle, cécité totale ou encore... atteinte sévère ou légère. Donc, en tenant compte de leur condition visuelle, on les aide à développer leur autonomie. On leur enseigne les différents trajets dont ils ont besoin pour s'intégrer socialement. Moi, j'ai la chance de travailler avec des jeunes de niveau collégial, universitaire, clientèle très curieuse. T'es toujours voulait toujours plein d'informations. Donc, je leur apprenais le trajet en transport en commun du domicile jusqu'au cégep.
Ça, c'est la première chose, c'est-à-dire de faire le trajet ensemble, soit en métro ou en bus, c'est ça?
Oui, développer des habiletés, développer de la confiance, leur démontrer qu'ils sont en mesure de le faire. L'utilisation du transport en commun, parce que là, c'est sûr, ils viennent de terminer le secondaire. Mm-hmm. Secondaire, habituellement, ton environnement, ton rayonnement se situe pas mal dans ton quartier. Passer au cégep, c'est une autre étape. C'est l'utilisation du transport en commun de façon régulière. C'est sûr qu'au secondaire, tu le fais. Si tu le fais, pour te rendre à l'école, ça va être des courts trajets. Tandis que là, ça peut être un trajet un petit peu plus long. Donc, développer les habiletés, développer les habitudes et toute la confiance qu'ils ont pour accomplir ce trajet-là, pour se rendre à l'institution scolaire, une vue d'ensemble. Après ça, on s'en va avec les points d'intérêt, bibliothèque, cafétéria, service aux étudiants, pour après ça, y aller plus précisément à les salles de cours. Ça a été pour moi quelque chose d'extraordinaire parce que c'était un rêve pour moi de pouvoir faire ce travail-là.
Pourquoi c'est un rêve?
Je pourrais pas vous dire, comme vous savez, j'ai été beaucoup, beaucoup impliqué dans ma communauté. Puis je trouvais que c'était tellement une façon de rendre service à cette clientèle-là, de pouvoir les rendre autonomes dans leurs déplacements. Rendre autonome dans tes déplacements, ça veut dire que par le fait même, tu t'ouvres la vie. Mm-hmm. OK? Tu t'ouvres à tout ce qui se passe autour de toi. Si tu peux pas te déplacer, bien, tu restes chez toi. Alors que là, c'est de leur ouvrir les différents champs d'activité qui peut se passer autour d'eux et surtout de les aider à développer toute la confiance qu'ils ont besoin, pas uniquement dans leur déplacement, mais dans tout le restant. Si tu as confiance là, il y a de bonnes chances que tu aies confiance le restant aussi.
Alors, on revient avec la conclusion de l'émission, le jeu questionnaire. On arrive à la fin de l'émission. Ronald Beauregard, quelles sont les personnes qui vous ont inspiré?
Ça peut paraître un cliché, mais évidemment, mon père.
Pourquoi?
Sa grande détermination, le cœur à bonne place, un grand travailleur. C'était toujours... J'encourageais tout le temps.
Vos mentors?
Armand Houle, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Armand, m'a tout enseigné aussi là, au niveau de la déficience visuelle. Un autre qui, je lui ai jamais dit, il va être surpris, là, Richard Lavigne, que vous connaissez peut-être.
Oui,
Jean-Marie Damo, Alain Plourde. Des gens qui m'ont aidé beaucoup à cheminer professionnellement.
Quels sont les livres que vous nous recommandez?
Bien, les livres, moi, comme je vous ai parlé, j'ai eu beaucoup de problèmes à lire. Donc, l'avènement de l'électronique, la tablette et le numérique, tout ça, ça m'a redonné le goût de lire. J'aime beaucoup m'informer, donc je vais lire souvent soit des documentaires ou encore la presse, que j'adore. je dois l'avouer, c'est ma conjointe qui m'a donné ce goût-là en m'offrant justement les différents équipements électroniques qui m'ont redonné le goût de lire.
Et les artistes que vous aimez?
Les artistes que j'aime... j'adore la musique, donc c'est sûr qu'à ce niveau-là, ça va plutôt aller du côté musique. J'ai toujours été impressionné par les comédies musicales, surtout ce qu'on produit au Québec. On se rappelle de Notre-Dame, on se rappelle de Don Juan, même si c'était des coproductions franco-québécoises. Là, j'ai toujours été impressionné par les comédies musicales, donc je pourrais pas vous dire des noms exacts.
Mais Notre-Dame de Paris, tout ça, toutes les comédies.
Exactement, ça m'a toujours impressionné.
Et les villes que vous aimez?
Paris. Ça, c'est, je dois être allé 15 fois à Paris, puis j'y retournerai demain. J'adore Rome aussi, mais toute l'Italie en tant que telle, et San Francisco, et toute la région, Napa Valley.
Merci beaucoup d'avoir passé une heure avec nous. C'était très agréable. Et merci pour ce que vous faites, Monsieur Beauregard. Et notre équipe, eh bien, Jean-Sébastien Laliberté et Mathieu Tessier, la réalisation de l'émission aujourd'hui, ils sont deux. Et Christiane Campagna à la recherche. Et puis aux médias sociaux, Kevin Breton. On se retrouve la semaine prochaine, mesdames, messieurs. Et prenez soin de vous. Bye bye.